Place Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Nicolas Crozel.
Bonsoir, bonsoir à tous. Des chiffres et des lettres au menu ce soir des informés. Les chiffres du chômage, plus 25% en un trimestre. Mais le pire n'est-il pas devant nous? Comment et en combien de temps l'économie française va-t-elle absorber les conséquences du coronavirus? On ouvre le débat ce soir avec nos informés. PMA, trois lettres pour un débat de société. La procréation médicalement assistée ouverte à toutes les femmes. Au menu des députés ce soir à l'Assemblée nationale, la loi de bioéthique peut-elle être le grand texte du quinquennat Macron? Il reste 600 jours d'ailleurs dans ce quinquennat. 600 jours à Emmanuel Macron et à son gouvernement Castex, gouvernement au complet depuis hier soir. Une dizaine de secrétaires d'État nommés, dont six petits nouveaux qui donc, eux, ont trouvé un emploi hier soir. On en parlera et on évoquera évidemment aussi le Conseil de défense écologique. On arrête de chauffer la rue, fini les terrasses chauffées aux bars et restaurants. Bonne idée pour la planète, mais les restaurateurs et patrons de bars pourront-ils l'encaisser après ces semaines de confinement? Autour de la table ce soir, pour développer tous ces sujets, Sophie de Menton. Bonsoir Sophie.
Bonsoir.
Chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien aujourd'hui en France. Bonsoir Henri.
Bonsoir.
Olivier Faye, journaliste au service politique du Monde. Bonsoir.
Bonsoir.
Et bonne première avec nous ce soir. Et Julien Auffray, expert en communication associé à l'agence La French Com. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci à tous les quatre. Le chiffre est donc impressionnant, hein, 24,5% de chômeurs en plus au deuxième trimestre en France par rapport au premier trimestre. 815 000 inscrits supplémentaires dans la catégorie A, la principale de Pôle emploi. C'est la conséquence du confinement et du ralentissement économique. Et ça aurait pu être pire. Le pire est d'ailleurs devant nous, dit François Asselin de la CPME.
Tout va se jouer dans les mois qui viennent. Derrière ce chiffre, bien évidemment, il y a toujours des histoires personnelles, hein, de femmes et d'hommes qui perdent leur travail. Mais il y a 9 900 licenciements économiques, qui est plutôt un chiffre faible. Ce qui veut dire que pour l'instant, eh bien, nous sommes dans l'actualité du confinement et du déconfinement. Nous n'avons pas encore connu, malheureusement, la vague que nous allons subir, eh bien, où des entreprises qui n'ont pas su et qui n'ont pas pu, de toute façon, retrouver un niveau d'activité qu'ils avaient auparavant, vont devoir se séparer de salariés.
Alors, 24% de hausse en 3 mois, c'est beaucoup ou pas beaucoup, Henri Vernet?
Alors, c'est beaucoup, mais évidemment pas si énorme si on pense au choc absolument colossal qu'ont été les 55 jours de confinement et donc d'arrêt, de paralysie totale de toute une économie. Donc à cette aune-là, on sent bien que 24%, c'est un chiffre totalement catastrophique, mais quitte à relativiser dans ce cadre-là. En revanche, ce qu'on comprend bien, et ça, l'avertissement du patron de la CPME est tout à fait justifié là-dessus, c'est que la grosse attente désormais sur ce qui se passera à la rentrée, et notamment sur l'annonce d'un plan de relance qui est en train d'être fignolé, pourrait-on dire, et là, il faudra en effet que la réponse soit à la hauteur de l'énormité du chiffre qu'on vient de citer.
Sophie de Menton, vous êtes chef d'entreprise. Comment vous regardez ces chiffres bruts? 24%, on dit c'est énorme.
En même temps, on nous explique que ça... Les chiffres n'ont pas beaucoup de sens. C'est énorme, mais je suis d'accord, c'est à la fois un peu normal et... Non, c'est pas si énorme que ça. Ça va plutôt dans le bon sens. Je suis pas inquiète, mais là c'est ma nature de chef d'entreprise, parce que si les chefs d'entreprise se mettent à être inquiets, à paniquer, c'est la fin de tout. Je ne suis pas inquiète, je trouve qu'on nous fait un scénario catastrophe de la rentrée. Alors ça va dépendre évidemment peut-être du virus, etc. Mais je suis pas... Les boîtes vont pas si mal. Alors, ce qui est embêtant, vous parliez de prendre relance, c'est que on parle finalement en termes de macroéconomie. Tout d'un coup, on vous balance des chiffres dont personne au monde ne peut concevoir ce que ça veut dire. On les balance avec soi-disant l'État qui a une vision
des
plans de relance.
Vous parlez des plans de relance, les milliards qu'on annonce jour après jour.
Milliards.
Oui,
qu'on se demande d'ailleurs
d'où ils sortent. D'où ils sortent déjà.
Oui, d'où ils sortent. Bon, moi j'ai adhérente au mouvement éthique que je préside, la Fédération de prêt-à-porter, elle est sinistrée. Ça, c'est clair. Quand vous avez 700 boutiques à Paris qui ferment et qui vont fermer en octobre, les gens ne sont pas retournés.
Donc l'enjeu, c'est celui-là. C'est le plan de relance et comment ça va évoluer en septembre.
Moi, je pense qu'il faudrait laisser faire confiance aux entreprises. C'est hors de question dans ce gouvernement et en France, on ne fait pas confiance aux entreprises. Je pense que ces sommes devraient aller aux fédérations professionnelles. Il y a, si vous voulez, on ne peut pas dire qu'il y a du chômage. Il y a des professions sinistrées, tourisme, restaurateur, prêt-à-porter, événementiel, ok, ça va mal. Et il faut prendre les professionnels et dire qu'est-ce qu'on fait.
Alors, on va détailler tout ça.
Absolument.
Auparavant, on fait boucle notre tour de table. Olivier Faye, Journal Le Monde.
Moi, pour le coup, je partage moins votre optimisme. C'est vrai qu'il y a à côté, c'est que ces chiffres-là, on n'a jamais vu des chiffres aussi mauvais, en fait. Depuis que les statistiques existent, pour parler du chômage, on n'a jamais eu des chiffres aussi catastrophiques. Et il y a une donnée, moi, qui m'a beaucoup intéressé, c'est que des régions comme la Bretagne ou les Pays de la Loire, qui traditionnellement sont des régions qui se portent plutôt bien, où le chômage est plutôt bas, là, c'est les deux régions, si ce n'est la Corse, où le chômage augmente le plus au deuxième trimestre. Donc ça peut effectivement donner des motifs d'inquiétude pour la rentrée.
Sur des régions où l'on sait que l'emploi est des fois quand même de l'emploi d'usine, d'ouvriers peu qualifiés, avec des petits salaires aussi.
Avec effectivement aussi beaucoup d'intérim. Et donc voilà,
la décrue se poursuit quand même, il y a une décrue du chômage. Ce qui est aussi important, c'est que, alors on peut ne pas s'en réjouir, mais il y a eu beaucoup de nettoyage dans les boîtes. Il y a des boîtes qui vont mal, mais qui allaient déjà mal. Et donc c'est vrai aussi...
Alors ça c'est intéressant aussi, est-ce que c'est le déclic du coronavirus? Alors, voilà. Est-ce que ça abonde? On peut en parler après, mais je voudrais quand même qu'on entende Julien Auffray, si ça veut que tout le monde ait la parole. Julien.
La question du pire est devant nous, ça se pose, et je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, le chiffre il est énorme, et quand on regarde précisément, on voit dans les chiffres qui ont été annoncés qu'il y a une forte hausse des inscriptions après fin de formation, et une forte hausse pour les nouvelles inscriptions à Pôle emploi. Donc effectivement, on a deux choses. On a, la première, c'est qu'on a un énorme chiffre, et effectivement... les chiffres vont probablement continuer à s'empirer, si j'ose dire. Et puis, il y a une inquiétude de la part de l'opinion publique sur les plans sociaux qui pourraient arriver à la rentrée. On voit qu'Airbus va quand même programmer, alors ils sont en discussion, mais ils vont quand même programmer le plus grand plan social de leur histoire. C'est quand même très inquiétant. Alors, même si les chiffres, on peut leur faire dire tout ce qu'on veut,
Ça fait quand même des personnes qui perdent leur emploi en ce moment. On va poursuivre ce débat, on a plein de choses à se dire sur ces chiffres du chômage et les perspectives pour la rentrée. C'est juste après le Fil Info, 20h10, Edouard Marguier.
Le nombre de cas Covid-19 continue d'augmenter en France. 2500 de plus officiellement diagnostiqués ce week-end. 17 nouveaux décès à déplorer en 3 jours. Au total, la France enregistre 30 209 morts du coronavirus. À ce propos, les entreprises doivent avoir des masques pour leurs salariés. Le gouvernement leur recommande de constituer un stock de 10 semaines face à une résurgence potentielle de l'épidémie. Un lanceur d'alerte au sein de la police dénonce des faits de maltraitance, de racisme et de vol dans les geôles du tribunal de Paris. Des révélations du site internet Street Press confirmées par France Info. L'IGPN, la police des polices, a enquêté sur ces faits répétés, mais jamais la justice n'a été saisie, ce que réclame SOS Racisme ce soir. Un incendie préoccupant en Gironde, près de 200 hectares ont brûlé à côté d'une commune située à 60 km au sud de Bordeaux, Le Tuzan. Une trentaine d'habitants des hameaux voisins ont dû être évacués par précaution. 160 pompiers sont mobilisés. Le secteur est très difficile d'accès. L'entorse à la cheville de Kylian Mbappé le tiendra éloigné des terrains pendant 3 semaines environ. Le PSG l'annonce ce soir. L'attaquant est donc incertain pour le quart de finale de la Ligue des Champions contre Bergame dans 2 semaines et demie. Payer ses factures du quotidien chez son buraliste, ce sera possible à partir de demain dans 5000 bureaux de tabac en France. Des factures de cantine, de crèche ou encore des amendes qui pourront être réglées en espèces jusqu'à 300 euros. Dispositif qui a été testé jusque-là dans 10 départements.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h. France Info, les informés, Nicolas Crozel.
Et on continue avec nos informés du soir, Sophie de Menton, Henri Vernet, Olivier Faye et Julien Auffray, de commenter ces chiffres du chômage et ce qu'ils disent aussi de l'action politique à venir pour Emmanuel Macron et son gouvernement. Je reviens sur ce que vous disiez, Sophie, avant le Fil Info. Vous évoquiez ces entreprises qui allaient mal, qui ont, pour lesquelles peut-être la crise du coronavirus est la goutte d'eau. On entend aussi dire que par moment, le coronavirus, il a bon dos aussi et que certains s'en servent pour dégraisser un peu plus.
Alors, Bondo, d'abord, il faut quand même savoir qu'aucun patron ne licencie par plaisir et il a besoin de ses salariés. Donc, c'est vrai qu'il y a des boîtes qui ont licencié. C'est vrai qu'il y a des aberrations. On vous dit comment l'État donne beaucoup d'argent à Air France ou à Airbus. Oui, il faut qu'Air France licencie. Je veux dire, Air France retrouvera son activité dans 5 ou 6 ans, au mieux.
Mais quand vous êtes salarié d'Air France, que vous perdez votre travail...
Non, mais attendez, pour l'instant, on parle d'économie et de réalité de la situation. Ouais. Il est évident qu'on est tous absolument aux côtés de ces gens qui vont être au chômage. Cela dit, je suis optimiste. L'économie peut reprendre. Il faut pas penser qu'on est accroché à un poste. D'abord, il y a une bonne sécurité du chômage et c'est bien. Et il y a des possibilités de retrouver du boulot. Et je crois qu'il va y avoir voir. Je crois beaucoup à une forme de rebond. En revanche, ceux qui souffrent le plus, et ça, on n'en parle pas, c'est tous ceux qui sont des indépendants, qui ont créé leur boulot, vous savez, qui sont à leur compte. Et ça va de, je sais pas, de l'esthéticienne à domicile, au kiné, etc.
L'auto-entrepreneur dans le bâtiment,
oui,
aussi,
absolument,
etc.
Aux menuisiers, etc., aux artisans. Je trouve que cela, on est bien silencieux. Or,
C'est ce que disait François Asselin dans la CPME. Il disait, au-delà des grands plans sociaux annoncés dans les mastodontes, il va y avoir à partir de septembre, vous êtes d'accord, Henri Vernet, ce tissu économique, ces toutes petites entreprises qui s'effritent, où là, ça ne se voit pas parce qu'il n'y a pas de plan médiatique annoncé, quoi.
Non, par définition, ça se fait, comme vous disiez, non pas en catimini, mais en tout cas, ça se voit pas, c'est pas spectaculaire. En même temps, ce sont des fermetures qu'on peut constater parfois, vu les métiers, d'ailleurs, que vous avez énoncés au coin de la rue. Donc, on voit bien que cette économie-là, elle est sinistrée, oui. Elle est extrêmement fragile. Alors, en même temps, comment lutter? Oui, il faut l'aider. D'ailleurs, le choix du ministre qui a été affecté à cette tâche, c'est justement quelqu'un qui est, c'est même pas la CGPME, c'est l'autre organisation, Griset, qui est une organisation qui est encore plus dans la microéconomie. Donc, on voit bien que ce souci-là existe. Maintenant, c'est pas parce que la préoccupation existe qu'elle va forcément trouver une solution, une réponse adéquate. Quand je disais tout à l'heure que beaucoup dépendra du plan de relance, c'est qu'en effet, pour l'instant, vous le soulignez tout à l'heure, on ne parle que de milliards, que ce soit les milliards nationaux, si je puis dire, avec la centaine qui a été annoncée par le président Macron le 14 juillet, que ce soit les milliards qui finiront bien par venir de l'Europe. On entend ces masses énormes sans savoir quelle sera, pour l'instant en tout cas, la stratégie derrière, avec quelle finesse on ira privilégier tel ou tel.
Bien sûr,
parce que c'est ça qui est vital. Et notamment, on a entendu pendant 2 mois que le monde ne sera plus comme avant, que tout serait changé, etc. Bon, bien sûr, on n'est pas né de la dernière pluie, donc on sait bien la part de discours derrière ça. Il n'empêche, même en économie, il faut que c'est une réalité. Et donc, on voit bien que, par exemple, dans les objectifs, il y a l'idée de trouver des investissements durables, en quelque sorte, qui soient en adéquation avec les impératifs de changement climatique. Des investissements qui sont stratégiques. Est-ce que l'aéronautique, en effet, que vous avez signalé, est-ce que il faut, comment dire, y investir de manière massive, alors qu'on voit bien qu'il y a quand même une espèce de gap, quoi, de mur.
On est en train de nous expliquer que l'avion n'est peut-être pas le mode de transport du futur.
Et voilà, donc peut-être qu'il faut vraiment réfléchir. Alors c'est vrai qu'il faut, alors il y a le numérique, il y a les fameuses relocalisations. Alors peut-être pas en tant que tel, mais en tout cas retrouver des investissements dans des secteurs qui seront réellement des secteurs liés à la souveraineté européenne, pas que française. Bref, c'est tout cela qui devrait être mis en musique, bon, à côté de tout ce qui est plan jeune, les emplois aidés, tout ce qu'on connaît. Mais en tout cas, ce qui va être fondamental, c'est cela. Or, là-dessus, il y a un grand malaise. C'est le temps que ça va prendre, que ce soit au niveau français, national et au niveau européen, où ça risque d'être encore plus long.
Olivier Fay, vous êtes d'accord? Le temps économique n'est pas forcément celui du politique et encore moins celui de l'urgence de ceux qui savent pas comment.
Et en plus, il y a cette grande tradition française qui fait que, vu qu'on a des amortisseurs sociaux assez importants, très souvent, on prend les crises de plein fouet plus tard que les autres, mais aussi on met plus de temps que les autres à redémarrer. Donc, je pense que sans doute, on risque de voir à nouveau ça se mettre en place. Mais ce qui est intéressant, je trouve, pour Emmanuel Macron, c'est que là, depuis quelques mois, tout ce qui se passe t'oblige à faire une sorte de tête à queue, pas forcément idéologique, mais en tout cas dans l'orientation de son quinquennat. Un peu comme Nicolas Sarkozy, il avait connu ça aussi en 2008, hein, après la crise financière, où Emmanuel Macron est obligé de remiser sa réforme sur l'assurance chômage, qui pourtant, quand il la portait, il considérait que c'était une excellente réforme. Aujourd'hui, on voit que c'est pas une réforme qui est adaptée au temps actuel. Il remet en place les emplois aidés, qu'il avait pourtant supprimés au début du quinquennat.
Qui était,
voilà, quelque chose porté par François Hollande. Et c'était quelque chose de très symbolique. C'était très symbolique, politiquement parlant, pour Emmanuel Macron, de supprimer ça pour se détacher, justement, de l'image de François Hollande.
Attention, emplois aidés, c'était des emplois aidés dans les collectivités locales et l'administration, précisons bien.
Oui, bien
c'est
sûr.
Pas des emplois aidés dans les entreprises. Et ça veut dire que les mômes qui sortaient de ces emplois aidés ne retrouvaient rien. Donc c'est pour ça que c'est pas bien et que cet argent ne doit pas le gaspiller inutilement. Ce qui ne veut pas dire que c'est gaspiller de l'argent que d'aider un jeune. Mais il y a plein d'autres moyens.
C'est plus intelligent de l'aider dans le plan jeune annoncé la semaine dernière où on met 4 000 euros par an en moyenne, hein, jusqu'à 4 000 euros par an d'aide de salaire directement
clairement.
À l'entreprise.
J'aurais préféré des baisses de charges, mais les primes, ils ont fait des primes. Bon. Mais c'est vrai que ça peut aider de recruter comme ça.
Julien Raffron, on est toujours dans cette logique, finalement, quand il s'agit de sauver l'économie, on injecte à coup de subventions et de grands milliards. Vous aussi, vous partagez cette interrogation sur la traduction concrète que ça va donner?
Je pense que tout le monde se pose la question. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de chiffres. On nous dit, par exemple, 6 milliards pour les jeunes à la rentrée, etc. Évidemment que la question qui se pose, ça va être de savoir vers quoi vont être guidés ces fonds. Aujourd'hui, on le voit dans à peu près toutes les crises. À chaque fois qu'il y a une crise, l'État essaye du moins d'être le plus présent possible. Nous, à la FrenchCom, on le voit dans la gestion des crises au quotidien. Systématiquement, il y a une volonté systématique de mettre énormément d'argent sur la table parce qu'on se dit ça va aller mieux en mettant beaucoup d'argent sur la table. C'est pas en mettant énormément d'argent sur la table qu'on sauve forcément, alors de manière générale, une organisation ou qu'on résout une crise.
Évidemment,
c'est votre argent. Il n'y a pas d'argent miraculeux comme ça qui appartienne à l'État, qui soit une manne céleste.
C'est notre argent.
C'est l'argent des contribuables.
C'est l'argent. Donc forcément, c'est précieux. Il faut savoir véritablement vers quoi ça va être, qui va recevoir cet argent-là, sur quoi il va y avoir, quel levier on va utiliser. Est-ce que ça va aller plutôt... Alors pour les jeunes, est-ce que ça va être l'emploi? Est-ce que ça va être beaucoup sur l'alternance, sur la formation? Toutes ces questions...
Et on le voit depuis un an. Redonner le goût de bosser, de un peu. Redonner un peu le goût du travail.
Est-ce que vous pensez que les gens n'ont plus envie de travailler?
Alors, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je dis qu'il est évident que le confinement a provoqué un espèce de choc psychologique, facile, pas facile.
Moi, je connais quand même beaucoup de gens qui étaient contents de retourner travailler. Hein.
Oui. Beaucoup de gens aussi, dès qu'ils sont retournés, qui étaient assez contents de rester chez eux pour continuer à travailler. On a eu beaucoup de mal dans toutes les entreprises, toutes les échos que j'ai, beaucoup de mal à les faire revenir. Non pas par mauvaise volonté, parce qu'ils avaient trouvé un autre système, etc. Et ils sont à peine revenus, qu'ils partent en vacances. Pardonnez-moi, mais vraiment, je connais beaucoup de patrons qui sont...
Il y a aussi
eu
beaucoup de détresse psychologique aussi liée au confinement, c'est vrai, et c'est parfois difficile de retourner au travail.
Il y a ceux qui ont voulu revenir, à qui l'entreprise a dit « ne venez pas tout de suite ». Enfin, il y a tout, on a tout vu, en fait.
Il y a même des entreprises qui ont dit...
Ne
prenez pas de vacances parce que il faut que ça continue à travailler.
Ils ont mal compris quand on leur dit
ça. Oui, parce qu'il faut aussi que l'économie du tourisme
se
relève.
C'est l'argent, c'est le travail qui crée la richesse.
Tout ça, évidemment, alors qu'on est avec un nombre important d'entreprises qui sont au chômage partiel, ce qui peut aussi masquer un petit peu la réalité, puisque effectivement, il n'y a pas d'activité, mais les emplois sont préservés. On va continuer d'évoquer tous ces sujets après le fil info 20h20. Édouard Marguier.
Premier incendie important en Gironde de la saison, 160 pompiers sont mobilisés près du Tuzan, à 60 km au sud de Bordeaux, près de 200 hectares ont déjà brûlé. Une trentaine d'habitants des hameaux voisins ont dû être évacués par précaution. Un brigadier chef de la police dénonce à visage découvert des faits de racisme et de maltraitance sur des prévenus dans les cellules du dépôt du tribunal de Paris. Des révélations du site internet Street Press confirmées par France Info, l'IGPN, la police des polices, a enquêté sur ces faits répétés, mais jamais la justice n'a été saisie. Toujours plus de malades du Covid-19 en France, 2500 de plus officiellement diagnostiqués ce week-end. La Direction Générale de la Santé déplore ce soir la mort de 17 nouvelles personnes en 3 jours. Dans ce contexte, malgré tout, les foires et salons professionnels annulés ou reportés en raison de cette pandémie pourront reprendre à partir du 1er septembre. C'est ce qu'annonce le ministre délégué au commerce extérieur et à l'attractivité, Franck Riester. Le chômage atteint toujours des niveaux records. Le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 24,5% au deuxième trimestre par rapport au premier. 815 000 personnes sans aucune activité de plus se sont inscrites sur les listes de Pôle emploi. Kylian Mbappé aura besoin de 3 semaines environ pour se remettre de son entorse. Le PSG donne ce délai pour son attaquant blessé pendant la finale de la Coupe de France. Mbappé n'est donc pas certain de jouer le quart de finale de la Ligue des Champions dans 2 semaines et demie.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, France Info, les informés, Nicolas Crozel.
Et depuis le début de cette émission, on évoque ces chiffres du chômage pour le deuxième trimestre qui montre une hausse du nombre de demandeurs d'emploi, 25% en 3 mois. Est-ce que, je me tourne vers Olivier Faye du service politique du Monde, est-ce que c'est un enjeu politique aussi désormais pour Emmanuel Macron? Est-ce que son quinquennat se jugera aussi là-dessus, surtout là-dessus, alors que finalement la crise s'impose à lui au-delà des politiques qu'il aurait pu traduire finalement?
C'est une évidence, et même certains, c'était peut-être un peu audacieux, disent dans des déjeuners en off, certains ministres disent ça, que quelque part Emmanuel Macron pour lui c'est aussi une chance parce qu'il est étiqueté spécialiste de l'économie, en tout cas compétent sur le sujet, et que donc il peut réussir à saisir ce sujet-là pour, on va dire, remonter dans les sondages. Bon, ça c'est peut-être vu par le petit bout de la lorgnette,
il faudra
quand même avoir des résultats effectivement. Ouais. Après, ce qui est vrai, c'est que la deuxième phase du remaniement ministériel qu'on a vu hier, l'exécutif la voit comme une phase plus sociale, on va dire, là où la première phase avec Gérald Darmanin, nommé à l'intérieur, Jean Castex, nommé à Matignon, était vue comme, voilà, pour consolider, on va dire, l'électorat
de
droite.
La base de droite, hein.
Aujourd'hui, les nominations de secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire, par exemple, à l'éducation prioritaire aussi, sont vues comme une volonté, voilà, de... On va dire de cohésion sociale, de cohésion nationale.
Donc, en fait, c'est les grands ministères à la droite et les plus petits portefeuilles à la gauche. C'est pas dit que ça plaise beaucoup à la gauche.
Et en plus, quand on voit le profil d'Olivier, c'est Olivier Grégoire qui va occuper le poste de secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire.
On doit parler secrétaire d'État qui vont mettre sur Twitter que attention, c'est pas des petits postes du tout. Parce que je voulais dire, ne le prenez pas mal.
Et Olivier Grégoire, pour le coup, c'est une femme libérale revendiquée qui a travaillé avec Jean-Pierre Raffarin, avec Xavier Bertrand. Et on est habitué à ce que ce soit des gens plutôt actifs de gauche qui occupent ce poste-là.
Bah c'est
Benoît
à tort.
Moment passé.
Parce alors, que je pense que l'économie sociale et solidaire n'est pas le privilège de la gauche.
Mais bah, ça je veux très bien que vous écoutez.
Et ben voilà. Je pense que elle, c'est une femme de caractère qui a vraiment. On a tous des ambitions. Je veux dire, c'est pas forcément une attitude de gauche. Et je trouve que c'est pas idiot du tout.
Henri Vernet, l'emploi, c'est ça va mettre les bâtons dans les roues au quinquennat Macron, ou est-ce qu'il pourra toujours s'abriter en disant, écoutez, j'aurais bien aimé faire ce que j'avais pu, mais bon, j'ai eu une coronavirus.
Rappelez-vous Hollande qui avait eu le tort d'indexer sa élection possible, même sa candidature tout simplement, à des résultats sur l'emploi. On a vu ce qu'il en est advenu. Emmanuel Macron n'a jamais fait cette erreur. Alors c'est vrai en revanche qu'il avait, cette idée de mettre l'économie, surtout de la réformer. Mais enfin, il faut se souvenir, c'est assez cohérent, une Olivier Grégoire, parce que libéral, c'était quand même la démarche d'Emmanuel Macron, avant même qu'il soit candidat. C'était la loi Macron qu'il avait portée en tant que, quand il était à Bercy, en tant que ministre de l'économie, c'était supprimer les carcans. C'était desserrer cette espèce d'étau, je pense que là-dessus, Sophie de Menton serait d'accord, qui, entre les charges, entre les monopoles divers et variés, mais qui pullulent encore dans notre pays, c'était d'attaquer par ce biais-là. Et là où il y a en effet révolution, quitte à ce que ce soit d'ailleurs une révolution au jour le jour, c'est un situationniste Macron en ce moment. On voit pas le cap, on voit bien qu'en réalité il a juste au jour le jour.
Ouais,
bon, il faut dire aussi que le cataclysme qui est arrivé pour tout le monde, pas seulement pour la France ces derniers mois, contraint un peu les politiques. Mais donc oui, c'est sur l'économie, c'est sur l'emploi, les résultats qu'il pourrait y avoir ou pas. Alors on parlait de cet exemple donc d'Olivier Grégoire à l'économie solidaire. Bon, il faut savoir que c'était dans le Parisien, donc c'est pour ça que je l'ai beaucoup en mémoire, mais assez récemment. Elle avait produit un rapport sur, vous savez, la remise en vigueur de l'intéressement, de la participation. On parle de ça depuis le général de Gaulle. Mais cette idée, disons, d'embarquer tout le monde dans l'aventure économique.
Ça, voilà.
Et oui, mais pourquoi pas? Parce que surtout dans un moment qui est quand même un moment extrêmement spécial dans notre histoire, histoire tout court et histoire économique, où forcément il y a des choses à réinventer. Mais oui, peut-être que ça peut être une option qui peut être valable. Maintenant, il compte. Alors, il y a cet aspect, donc, décrit Olivier Faye dans son remaniement, complété donc par le secrétaire d'État. Il y a un autre aspect aussi, c'est que on voit bien que cette équipe, elle est quand même très centrée Europe. Et que ça, c'est vrai. Alors, c'est un des credos, même le credo de Macron depuis le début, mais là, c'est encore accentué. Parce que je crois que tout le monde a compris maintenant que rien ne se fera, on ne sortira pas de cette ornière économique sans qu'il y ait une relance assez concertée.
On l'a vu aussi avec le sommet à Bruxelles.
Mais bien sûr, justement, mais absolument. C'est la première fois.
Accord,
et là, il y a vraiment un pas philosophique, économique, culturel, tout ce qu'on voit. Qui est franchi avec cette idée commune. Peut-être juste une dernière chose, parce qu'il me surprend un petit peu là-dedans quand même, c'est que il faut prévoir, il faut planifier. Mais justement, le commissaire au plan qu'on attend, dont on nous dit depuis des jours, voire des semaines, que ce sera François Bayrou, on va attendre septembre.
Bah, tant mieux,
c'est un peu embêtant.
Plus c'est tard, mieux ça vaut.
C'est du cœur de Sophie de Menton. Plus c'est tard, mieux ça vaut, parce que évidemment, ça vous fait peur la planification, ça vous rappelle des choses.
C'est un peu la pratique d'Emmanuel Macron depuis le début du quinquennat, c'est de lancer des petites perches comme ça pour voir comment ça prend dans l'opinion. On a vu que de proposer François Bayrou comme nom.
Bon, c'est quoi? C'est la fonction ou c'est l'homme qui...
La fonction, mais
parce que j'ai l'impression que pour Sophie de Menton, c'est la fonction.
La fonction, mais il y a l'homme aussi.
Le principe même de faire une
planification. Il y a l'homme aussi. On a quand même eu un ministre de la Justice qui a dû quitter son poste un peu dans le bac de combat avec une affaire judiciaire. Emmanuel Macron, il aime beaucoup faire ça. Lancer et regarder.
Regardez comment ça prend.
Quand il a vu que ça prenait... faut être honnête, ça prend pas beaucoup.
Non,
donc, je pense qu'il attend de voir et peut-être que du coup, un autre casting.
Il y a un nom quand même que vous m'avez pas cité, je pense qu'il vous rassure, Sophie de Menton, c'est Laurent Pietraszewski, parce que s'il est encore là aux retraites, ça veut dire que la réforme des retraites, dont j'imagine que vous soutenez, j'imagine, n'est pas forcément jetée aux oubliettes.
Je sais plus ce que je soutiens, parce que là, du tout. La réforme des retraites, je trouve, a été une catastrophe. Pendant 2 ans et demi, on était sous tranquillisant. Tout a changé indéfiniment. Elle est d'une telle complexité que il faut se replonger dedans, et bon courage pour arriver à comprendre quoi que ce soit. C'est dépourvu de bon sens. Moi, j'étais basiquement sur le fait qu'on vivait plus vieux, qu'on n'avait pas d'argent, qu'il fallait bosser plus. Mais ça, c'est beaucoup trop simple. Donc, je sais plus. Parce que quand on redémarre ce type de réforme, qu'il faudrait évidemment redémarrer, on recommence avec les mêmes tics, les mêmes écueils.
Et donc, on
les
braque
syndicats
les mêmes
qui sont contre, les autres, on braque tout le monde. On est reparti. Moi, je pense que c'est le système français qu'il faudrait revoir, que la première des réformes, c'est ça. Je pense que nous parlons indéfiniment de la confiance dans le gouvernement et de la confiance dans ses plans de réforme, etc. Mais quand vaut-il nous faire confiance à nous ?
Les gens du terrain.
Les gens de terrain, mais les Français sont intelligents, ils ont du bon sens.
Allez, on va s'arrêter là pour la première partie de cette émission. On va parler de bioéthique juste après les infos. Le débat est ouvert actuellement à l'Assemblée nationale. A tout de suite.
France Info Météo avec le CIC. Agir sur le terrain, près de vous maintenant. CIC, reconstruisons dans un monde qui bouge.
Les dernières prévisions de Météo France avec vous, Sébastien Léas.
Après la chaleur intense de cet après-midi, les températures retrouveront des valeurs plus respirables demain, les maximales variant entre 22 et 32 degrés. L'air sera toujours plus frais sur le nord-ouest avec 19 à 25 degrés, mais sur le quart sud-est, le mercure grimpera jusqu'à 36 degrés. Côté ciel, la perturbation arrivée aujourd'hui va s'enfoncer sur le pays et donnera une matinée nuageuse de la Nouvelle-Aquitaine à la Lorraine. Les éclaircies seront de plus en plus larges entre les côtes de la Manche, les Pays de la Loire et les Hauts-de-France. Le ciel va aussi se dégager et le soleil va s'imposer l'après-midi entre le Poitou-Charente, la Vendée et la Champagne-Ardenne. En revanche, sur le centre-est, les conditions vont devenir instables. Quelques coups de tonnerre pourront déjà retentir en matinée en Auvergne, mais c'est à partir du milieu d'après-midi que le risque d'orage sera le plus marqué. Entre le sud du Massif central et les Alpes, les orages risquent d'être forts et pourront localement donner de la grêle. Le pourtour méditerranéen sera à l'écart et bénéficiera d'une journée plutôt ensoleillée.
Merci d'écouter France Info, le retour des informés dans 2 minutes, il est 20h30. Toute l'info avec vous, François Lepage.
Et avec les derniers chiffres du coronavirus, 17 décès supplémentaires depuis vendredi lors du dernier décompte publié. Le nombre d'hospitalisations et de cas graves en réanimation lui poursuit son lent repli. En revanche, le nombre de contaminations augmente, plus de 183 000 contre 180 500 vendredi. Plus de 2500 nouveaux cas donc en 3 jours. Les foires et salons professionnels annulés ou reportés en raison de la pandémie de Covid pourront reprendre à partir du 1er septembre en respectant les consignes de sécurité sanitaire, annonce ce soir du ministre délégué au commerce extérieur, Franck Riester. La décision a été prise en conseil de défense vendredi dernier. C'est un cinéma mythique de Paris depuis 1932. Le Grand Rex lui fermera en août pour la première fois de son histoire en raison de la baisse de la fréquentation et de l'absence de blockbusters, conséquence de cette crise sanitaire. Des policiers accusés de maltraitance, racisme et vol sur des prévenus dans les cellules du dépôt du tribunal de Paris, témoignage d'un brigadier chef en poste sur place en 2018 et 2019. Il a à plusieurs reprises alerté sa hiérarchie sur les agissements de plusieurs membres de l'équipe de nuit. Il a également témoigné auprès de l'IGPN dans le cadre d'une enquête achevée en février dernier. Elle conclut à des faits de racisme répété et possiblement de maltraitance. Elle n'a pas donné lieu à un signalement au procureur, d'après l'avocat de ce brigadier. Près de 200 hectares de forêt déjà détruits ce soir dans le sud Gironde par un incendie près de la commune du Tuzan, à environ 60 km au sud de Bordeaux. 5 hameaux d'une trentaine de personnes ont été évacués à titre préventif en raison des fumées. 4 bombardiers d'eau et plus de 160 pompiers sont mobilisés. Un des camions de pompiers a d'ailleurs brûlé, mais les occupants sont indemnes. Le feu est complexe en raison notamment du vent et d'un terrain difficile d'accès. 20h32 sur France Info, le retour des informés. Nicolas Crozel.
20h21, France Info, les informés. Nicolas Crozel.
Avec ce soir Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien aujourd'hui en France, Olivier Fay, journaliste au service politique du Monde, et Julien Offray de l'agence La French. Comme on évoque maintenant cette loi sur la bioéthique qui est en débat à l'Assemblée nationale en ce 27 juillet avec comme enjeu la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Débat qu'on annonce express, 25 heures pour 2300 amendements, c'est une deuxième lecture, me direz-vous. Il y a déjà eu de longs débats, mais pour l'insoumis Éric Coquerel, l'argument n'est pas valable.
Mais c'est pas sérieux, ce gouvernement n'est pas sérieux et la majorité de l'Assemblée qui l'accepte n'est pas sérieuse. Une loi de cette importance, elle se fait pas comme ça à l'arrache. Je vous rappelle, dans une période qui théoriquement n'était même pas prévue il y a quelques semaines. Bon, chacun sait que ça ne se fera pas devant une assemblée entière, pour plein de raisons. Chacun sait que, du coup, on peut avoir tout et son contraire. Donc, c'est pas prendre au sérieux. En plus, il n'y avait rien pour. On n'était pas pressé de le faire.
Alors, avant qu'on évoque le fond de cette loi et les réformes importantes qui sont en jeu, la question du calendrier, du délai, Olivier Faye, c'est une deuxième lecture. C'est l'argument de ceux qui disent qu'il est le temps d'avancer.
Oui, et puis surtout, il y a un risque, c'est qu'à la rentrée, en fait, il y a beaucoup de textes à défendre. Il va y avoir le plan de relance, effectivement, il va y avoir le projet de loi de finances. Enfin, voilà, il y a énormément de choses qui sont dans les tuyaux, la loi sur les séparatismes et autres. Et effectivement, même au sein de la majorité, en fait, certains avec peur que ce texte sur la bioéthique passe à la trappe. Et donc, ils ont poussé très fort pour le réinscrire à l'agenda de cet été. Et même contre l'avis de l'exécutif qui, au début, en fait, n'avait pas prévu ça.
Donc, 25 heures pour 2300 amendements, est-ce bien raisonnable, Sophie de Menton?
C'est très difficile parce que, à titre personnel, je suis pas très favorable à ça. D'un autre côté, c'est un avancement sociétal. Ça passera.
Quand vous dites que vous n'êtes pas favorable, c'est au fond de la loi.
À titre personnel, oui. À beaucoup d'articles qu'on peut pas tous citer.
Je savais pas si vous étiez pas favorable au fait qu'on fasse voter une loi en trois jours.
Alors, à partir du moment où tout a été fait, depuis toutes les manifestations, les heurts sociétaux auxquels ça a donné lieu. C'est fait. Alors, à partir du moment où ça va être fait, où le Sénat a voté, où l'Assemblée va le voter aussi, autant que ça aille vite, qu'on en ait fini.
Qu'on ne refasse pas comme le mariage pour tous, oui. Par exemple.
Et moi, je trouve que même si c'est un peu bâclé, autant que ça ait lieu. De toute façon, on ne l'évitera pas.
Excusez-moi.
C'est comme ça que
vous
sincère.
L'avez. Mais excusez-moi, la manière dont vous l'avez dit m'a fait sourire. Julien Auffray.
Pour reprendre ce qu'il avait dit, on est dans un contexte qui est quand même très différent du mariage homosexuel de 2012. Déjà, pourquoi? Parce qu'à l'époque, on avait comme une opposition sur la forme et sur le fond, et que c'est devenu entre guillemets la droite contre la gauche. C'est vrai qu'on attendait d'Emmanuel Macron. Enfin, du moins, on pensait qu'Emmanuel Macron avait retenu la leçon. Et que il voulait mettre les formes et que ça serait faudrait éventuellement pas trop forcer enfin passer au forceps. C'est vrai que 2500 amendements, 2300 amendements 300, en 25 heures.
Bon, on a connu pire.
Ce qui est intéressant dans le traitement de cette loi, c'est qu'il y a la volonté aussi pour entre guillemets casser une potentielle mobilisation qui pourrait se faire dans la rue, etc. C'est qu'il y a une volonté de traiter cette question sur le côté médical, technique, et plus sur une question sociétale, même si c'en est une. Hein. Mais ça, c'est assez intéressant à étudier, de voir comment cette loi a été amenée, parce qu'au début, elle était très clairement sociétale. Aujourd'hui, c'est très technique.
Et enfin, plus c'est technique, plus c'est sociétal. Hein.
Oui, mais plus.
Mais moi, on y comprend moins chose.
Et c'est ça qu'il faut noter aussi, parce que l'objectif, c'est pas d'avoir une mobilisation. Vous allez me dire, mobilisation à 1er août, ce serait comme relativement exceptionnel, mais c'est très intéressant à regarder ça.
Henri Vernet.
Mais d'abord, c'est pas fini, je veux dire, vendredi, enfin, la session extraordinaire s'arrête vendredi, donc a priori, il n'y aura pas de vote solennel, donc ce qui se passera sans doute, c'est qu'il y aura un vote. En plus, il n'y a personne à l'Assemblée. Tout à l'heure, j'ai eu un député qui m'expliquait qu'ils étaient en gros 20 en séance, alors que c'était le lancement aujourd'hui à 18h. Donc, ce projet poursuivra un cours normal, c'est-à-dire que ça retournera au Sénat, et puis, si le Sénat n'est pas d'accord, parce qu'on sait déjà qu'ils ne sont pas d'accord sur le remboursement. Qui ne marchera pas, et à la fin, l'Assemblée aura le dernier mot, ce qui est logique, mais tout ça nous mènera à l'hiver. Donc moi, je dirais, non, je trouve pas que le débat ait été escamoté. D'abord, bien avant son entrée dans l'enceinte législative, il y a eu un débat public, tout simplement, des états généraux, qui ont duré, si je dis pas de bêtises, 2 ans, dans lesquels tout le monde a pu s'exprimer. Alors c'est vrai que dans ce genre de débat, ce sont justement les militants qui viennent un petit peu phagocyter les choses, mais quand même, ça existe. C'était un débat largement sociétal dans lequel, encore une fois, tous les intéressés, toutes les parties intéressées ont pu exposer leur point de vue, ont pu avoir un débat assez contradictoire. Que Emmanuel Macron n'y renonce pas au nom de tel ou tel précédent, mais enfin, encore une fois, ça c'est la grandeur de la politique. Mmh. Vous arrivez, vous avez une réforme à faire passer, vous y croyez, vous le faites. On fait pas des marches arrière. L'ami comme François Hollande avait fait un petit moment avec le mariage pour tous, en disant finalement les maires feront comme ils voudront bien. Non, quand on porte un projet en politique et qu'on a un petit peu de colonne vertébrale, on le garde, on le porte. Alors là,
sur ces sujets-là, d'autant plus peut-être.
Mais bien sûr,
on en a d'autres reculés sur une réforme des retraites ou sur une réforme.
Voilà. Oui, si vous êtes convaincu du bien fondé de vos propositions, de votre projet politique et sociétal, eh bien, vous y allez. Bon, la conjoncture, encore une fois, ce foutu coronavirus a quand même bouleversé nos vies sur tous les plans. Fait qu'on en arrive à ça. Mais encore une fois, c'est pas fini. Ça ne s'arrêtera pas jeudi soir.
On va revenir sur ce qu'il y a dans le fond de cette loi. Est-ce que c'est une avancée ou pas? Est-ce que c'est un gage à la gauche? C'est des questions que j'ai envie de vous poser juste après le fil info. Mais un mot quand même sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Henri Vernet. Vous avez dit il n'y a pas grand monde à l'Assemblée, il n'y aura personne pour cette loi. C'est quand même un peu surprenant. À partir du moment où on décide, Sophie de Menton nous dit qu'il faut qu'on revalorise le travail. À partir du moment qu'on décide qu'il y a une session extraordinaire à l'Assemblée jusqu'à fin août,
c'est embêtant
de savoir qu'il n'y a personne dedans, non? Enfin, qu'il n'y a personne dans l'hémicycle, Sophie de Menton, non? Elles sont nos élus.
On est lundi, hein.
C'est effectivement un peu étrange.
Ça interroge en tout cas sur si on met un texte de cette importance-là à l'Assemblée et qu'on entend dire. Et je lisais dans un papier de votre journal ce matin.
Il y a énormément de lois très
importantes
qui ont été votées en catimini le soir tard avec personne de l'Assemblée.
Mais là, c'est pas en catimini, il y a un ordre du jour.
Il y a beaucoup de députés qui sont en circonscription.
Le lundi, c'est jamais un jour pour les députés. C'est peut-être dans la mais c'est comme ça. L'Assemblée, c'est le mardi, mercredi.
Pas tout le monde en même temps. Allez, il y aura peut-être un petit peu plus de monde demain, mais on nous annonce d'ores et déjà qu'ils seront 50 ou 60 maximum.
Oui, il n'y aura pas le plein, ça c'est clair.
Parce qu'il y a quand même beaucoup de députés qui sont très mobilisés sur le sujet, et beaucoup de députés de la majorité qui le sont, pour qui c'est vraiment une réforme iconique.
Ce que je voulais dire par là, c'est est-ce que ce n'est pas quelque chose dans lequel les députés ne vont pas se mêler à ça dans l'hémicycle pour ne pas avoir à rendre des comptes en circonscription? Parce qu'il y a aussi un décalage. Il y a aussi des fois un décalage.
Peut-être qu'on verra ça chez les députés Les Républicains qui, pour le coup, ont sans doute des difficultés à se positionner par rapport à ce texte-là. Je pense que pour ceux, La République En Marche, ça sera assez simple parce que c'était un engagement de campagne pour eux. Mais moi, ce que je trouve qui va être intéressant aussi à voir cette semaine, c'est Éric Dupond-Moretti. Ce sera un des premiers textes importants qu'il aura à défendre au sein de l'Assemblée nationale. Et on va voir comment est-ce qu'il va réussir un peu à se défendre. Parce qu'on dit beaucoup qu'il est sur la défensive depuis qu'il a été nommé ministre de la Justice. Et là, à mon avis, face aux assauts de certains députés Les Républicains qui sont pour le coup très pointus et qui très pointus sur le fond et sur la procédure parlementaire, je pense que là, il va avoir une semaine, à mon avis, assez chahutée.
Baptême du feu pour le ministre de la Justice à l'Assemblée sur ce texte. On continue d'évoquer cette loi bioéthique en débat à l'Assemblée à partir de ce soir. Juste après le fil info, il est 20h40, c'est François Lepage.
Conséquence du déconfinement et de la reprise de l'activité, le nombre de chômeurs continue de baisser en juin, mais reste à un niveau historiquement élevé. Il est encore loin d'effacer les hausses exceptionnelles de mars et avril, et la rentrée est plus qu'incertaine. Parmi les secteurs les plus touchés par le coronavirus, l'aérien, un retour au trafic d'avant pandémie à Paris, est attendu au mieux entre 2024 et 2027, selon le PDG d'ADP, gestionnaire des aéroports parisiens. Le gouvernement lui conseille aux entreprises d'avoir un stock de masques de 10 semaines pour faire face à une résurgence potentielle de l'épidémie. Une recommandation déjà effectuée début juillet avant la levée de l'état d'urgence sanitaire, mais cette fois répétée dans un contexte de rebond des contaminations. Près de 200 hectares de forêt déjà détruits ce soir dans le sud Gironde par un incendie près de la commune du Tuzan, environ 60 km au sud de Bordeaux. 5 hameaux d'une trentaine de personnes ont dû être évacués à titre préventif en raison des fumées. Après avoir obtenu la Coupe du monde de football en 2022, le Qatar vise les Jeux Olympiques de 2032. Le riche émirat du Golfe envisage de se porter candidat.
France Info. Et tout est plus clair.
20h-21h, France Info, les informés, Nicolas Crozel.
Et on continue d'évoquer cette loi sur la bioéthique qui est en discussion à l'Assemblée à partir de ce soir et pendant à peu près 25 heures pour tenter de faire cet examen de la deuxième lecture de ce texte avant la trêve estivale. Est-ce que cette réforme peut être la réforme emblématique du quinquennat, comme il y a eu la peine de mort en 81, le mariage pour tous en 2012, Julien Aufray?
J'ai pas le sentiment, mais c'est personnel. Après, c'est en fonction de de potentielles affinités, mais c'est une loi extrêmement importante. De là à la comparer et à la mettre au même niveau que l'abolition de la peine de mort, c'est une avancée majeure, à mon sens. Ce qui est important de regarder aujourd'hui, c'est que l'opinion publique, elle est globalement favorable. On dit entre 60 et 68%, elle est globalement favorable.
Mais il y a un chiffre. C'est moins opposant que les moins opposés, moins divisés que le mariage.
C'est un peu moins divisé, mais
tous.
C'est aussi. Il y a un chiffre qui est très intéressant, c'est qu'il y a 20% des Français qui n'ont pas d'avis tranché. Ça veut donc dire qu'il y a quand même 20% de Français qui peuvent changer d'avis en fonction de l'argumentaire, de la méthode. Donc, effectivement, de la manière dont ça va être, amené, là encore, je pense que ça peut y avoir une adhésion plutôt globale.
Alors, Sophie de Menton, je ne vais pas vous demander pourquoi vous n'êtes pas pour, mais quand vous entendez qu'il y a peut-être moins d'opposition ou que les choses s'amènent peut-être de manière plus apaisée au sein de la société.
Je pense, et puis encore une fois, vous savez, les combats pour les mener, d'abord... C'est pas un sujet sur lequel il faut mener un combat d'arrière-garde, parce que la société va un peu dans ce sens, donc on peut avoir des réticences personnelles, mais je vois par exemple dans cette loi, il y a des choses pour lesquelles je suis tout à fait d'accord. Il y a la création par exemple d'une nouvelle catégorie d'interruption volontaire de grossesse, d'avortement partiel. En cas de grossesse multiple où il y a énormément de fœtus, on a le droit d'avorter partiellement. C'est aussi...
un choix de vie pour certains.
C'est un choix de vie, etc. Mais c'est quelque chose qui est bon. Les tests génétiques sont possibles, pourquoi pas. L'autoconservation des ovocytes facilitée avec la limite d'âge, moi je suis pas pour. L'anonymat levé en partie pour le don du sperme, c'est bien. Donc si vous voulez, c'est très complexe.
Pourquoi
en revanche,
que c'est bien, c'est intéressant ça.
Parce que je trouve que l'enfant est le grand sacrifié de cette loi.
Il a C'est-à-dire le droit de savoir que là, qui est son père biologique.
On veut satisfaire à tout prix les parents. Il y a deux mères biologiques. On a droit à son désir de grossesse, de père ou de mère, etc. Moi, j'ai tendance à penser que c'est quand même l'intérêt de l'enfant qui prime. Et un enfant, il a le droit. C'est peut-être pas d'ailleurs forcément bien pour lui, mais à 18 ans, de demander qui est son père biologique. Et ça, si vous ne le faites pas, je crois qu'il y a des gens qui peuvent rester traumatisés à vie. Donc, cette loi, globalement, ce sont des avancées qui me heurtent souvent, mais il y a des choses bien dedans.
Henri Vernet.
C'est d'évidence une loi majeure, une loi très importante. C'est typiquement aussi une loi qui, finalement, ne fait que mettre en conformité la législation à l'état de la société.
Et à la pratique,
même. Et à la pratique, exactement. Oui, ce qui est le cas, d'ailleurs, de beaucoup de grandes lois. Je crois que c'est un théoricien américain qui avait montré ça le premier, qu'en fait, il est rare que la loi vienne bousculer les choses. Et en cela, elle est très importante, mais elle n'est pas emblématique. D'abord, parce que c'est pas exactement, la fibre profonde de Macron. C'est pas ça qu'incarne Emmanuel Macron. C'est autre chose. C'est un changement, disons, davantage dans le champ de l'économie, de la façon peut-être aussi de gérer le pays, même si les résultats sont pas à la hauteur des attentes qu'il avait suscitées. Des lois emblématiques, c'est intéressant. Tout à l'heure, vous rappeliez que l'opinion publique y est plutôt favorable. Des lois emblématiques extrêmement fortes, évidemment, vous l'avez cité, c'est la loi Badinter sur la peine de mort. L'opinion y était hostile. Et pourquoi Mitterrand et Badinter l'ont fait? Parce que pour eux, c'était ce qu'il fallait faire. C'était l'état de leur... Ça correspondait à leur conception de la société et c'était un choix de société, c'était affirmer un programme politique et
là,
ils l'ont fait.
Ils
ça, c'est une
mettre
loi
en conformité. Là, vous dites qu'avec cette fois, c'est plutôt on va arrêter des pratiques illégales,
la loi
les gens qui
aussi,
vont aller droit.
La loi était extrêmement importante. La loi Veil aussi. Alors, bousculer non seulement l'opinion, mais tout un camp, toute une famille politique. On l'oublie, mais le malheureux Giscard, il s'est quand même mis beaucoup de monde à dos. C'est aussi ça qu'il a payé en 80. Et donc, Simone Veil, il a porté une loi extrêmement importante. Mais d'ailleurs, regardez, ces grandes lois, vous les associez à des personnalités. Récemment, en effet, mariage pour tous, c'est vrai, c'est une loi majeure, emblématique peut-être moins de François Hollande que de Christiane Taubira. On s'en souvient. C'est vrai que là, on va tester en effet Dupond-Moretti. Sera-t-il pour autant l'homme de la PMA? Non, parce que c'est pas lui qui l'a créé. En revanche, ce sera un test politique extrêmement intéressant pour lui. Ça, je suis entièrement d'accord avec ce que disait Olivier. Mais donc voilà, c'est une loi très importante, à mon avis, une loi nécessaire, parce qu'encore une fois, ça sert à rien de courir après la société. Ça fait que créer des... On le voit, en plus, quand on entend les témoignages, à quel point on a des situations ubuesques, poignantes. En revanche, je comprends tout à fait les freins, les réticences que des politiques ou chacun de nous peut avoir avec tel ou tel point. On voit bien d'ailleurs que l'un des points rugueux, ce sera la fameuse ROPA. Alors, je serai incapable de vous dessiner décliner le sigle, mais dont là, on voit que au sein même de LREM, ça fait énormément débat parce que ce serait
la ROPA.
Quand vous pouvez faire des dons de vos sites ou de gamètes.
D'accord.
C'est en gros, si vous voulez, la crainte.
La crainte, c'est que ça pourrait ouvrir la voie juridiquement à la GPA.
Voilà. Et du coup,
Mais pour préciser, c'est pas forcément. On dit. Oui, c'est vrai que la gauche est réputée être plus avancée socialement, sociétalement. Je ne crois pas que ce soit le cas. Il y avait un remarquable essai de Sylvia Nagasensky, qui était la philosophe, femme de Lionel Jospin, qui était totalement opposée, avec des arguments philosophiques formidables, etc. Donc je crois qu'on n'est plus dans un débat gauche-droite, là.
Mais là, on est peut-être dans une régularisation de pratique, comme disait Henri Vernet. Vous êtes d'accord, Olivier Faye, empêcher peut-être ces femmes d'aller en Belgique et puis aussi après de régler la question de l'autre maman, qu'elle soit reconnue comme étant la deuxième, le parent 2.
J'aimerais mieux qu'on adopte un peu plus, surtout avec tous les malheureux enfants qui sont à adopter et qui sont seuls.
Alors ça, c'est long aussi, les procédures d'adoption.
C'est navrant.
On sait qu'il n'y a pas forcément une dimension effectivement historique, comme on l'a dit, à ce texte, mais ça rentre effectivement dans la vie concrète des gens. Sans doute, on reste sur des cas particuliers, que ça se chiffre en milliers, en dizaines de milliers de personnes, mais c'est pas rien en fait. Ça concerne quand même des vies et les gens pour qui c'était un texte très important. Et c'est aussi pour ça, je pense, que la majorité a tenu aussi à accélérer sur le sujet, parce qu'il faut qu'au printemps prochain, ça soit voté.
Puis surtout, juste une chose, il reste 600 jours.
Même 14-15
mois, donc il faut accélérer. Et puis, il faut falloir montrer à la fin du quinquennat qu'il y a eu des choses.
Qu'il s'est passé des choses et pas que les rustines d'une crise qui nous est tombée dessus, c'est ça en gros ?
Exactement, tout à fait.
C'est la dernière étape avant la GPA, vous pensez ? Ou là, vraiment, il faut séparer les deux ? Parce que c'est un autre débat, la GPA.
Non, c'est évidemment, il va évidemment y avoir la GPA.
Et je peux même... Il y aura évidemment la GPA, oui.
Évidemment. Et alors, je vais vous dire, moi qui suis opposée à ça, j'ai... à des amis d'enfants. Elle a eu une leucémie épouvantable, on a prélevé des ovules, elle s'est mariée, elle a eu une rechute effroyable, elle a réussi à s'en tirer avec une greffe de moelle. Eh bien, ils habitent les États-Unis, ils ont pris une mère porteuse, et je dois dire que ça a été fait formidablement, cette mère avait déjà un enfant, etc. La jeune femme a assisté à la naissance. Vous ne pouvez pas ne pas être bouleversé que cette jeune femme ait réussi à avoir un enfant et que ça soit fait moralement dans des conditions inattaquables.
Mais ça ouvrira des débats sur la commercialisation du corps. Et là, on est sur des
sujets... Mais là, ce sont des cas très particuliers et c'est horriblement difficile comme débat.
Eh bien, écoutez, en tout cas, on ne va pas l'ouvrir ce soir, celui sur la GPA, mais on a bien balayé le spectre de la loi sur la bioéthique qui est en discussion en ce moment à l'Assemblée. On va parler d'écologie. Il y avait un conseil de défense écologique ce matin. Également au menu de l'actualité politique. On en parle juste après le Fil Info. Il est 20h50. François Lepage.
Des policiers accusés de maltraitance, racisme et vol sur des prévenus dans les cellules du dépôt du tribunal de Paris. Témoignage d'un brigadier chef en poste sur place en 2018 et 2019. Il a à plusieurs reprises alerté sa hiérarchie sur les agissements de plusieurs membres de l'équipe de nuit. Près de 200 hectares de forêt déjà détruits ce soir dans le sud Gironde par un incendie près de la commune du Tuzan, environ 60 km au sud de Bordeaux. 5 hameaux d'une trentaine de personnes ont été évacués à titre préventif en raison des fumées. Les derniers chiffres du coronavirus, 17 décès supplémentaires depuis vendredi lors du dernier décompte publié. Le nombre d'hospitalisations et de cas graves en réanimation poursuit son lent repli. En revanche, le nombre de contaminations augmente, plus de 183 000 contre 180 500 vendredi, plus de 2 500 nouveaux cas en 3 jours. Les factures du quotidien, cantine, crèche, hôpital, amende ou encore impôts pourront être payées dès demain dans plus de 5 000 bureaux de tabac en France. Service dédié notamment aux demi-million de personnes qui ne dispose pas de compte bancaire, rencontre des difficultés à se déplacer ou ne maîtrise pas Internet. Entorse confirmée pour Mbappé avec un délai de reprise d'environ 3 semaines selon le PSG, ce qui le rend incertain pour le quart de Ligue des Champions contre Bergame.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, France Info, les informés, Nicolas Crozel.
Et on va évoquer maintenant dans cette dernière partie des informés ce conseil de défense écologique qui était là aujourd'hui au menu du jour pour le chef de l'État dans le but de traduire quelques-unes des mesures proposées par la Convention citoyenne pour le climat. C'en est donc terminé des chaudières au fioul dans les logements neufs ou lorsque l'on veut changer son chauffage. C'est interdit aussi les terrasses chauffées, en tout cas elles le seront bientôt. Il y aura on a aussi eu la création de deux parcs naturels régionaux supplémentaires, en Baie de Somme et l'autre autour du Mont Ventoux dans le Vaucluse. Les terrasses chauffées, ça peut faire sourire, mais c'est quand même un vrai sujet. Ça fait des mois et des mois qu'on nous explique qu'il faut arrêter de chauffer la rue. Quand on a des passoires thermiques et on chauffe la rue, Sophie Lantron.
Oui, y compris en Arabie Saoudite où là il y a des pistes de ski quand il fait 45 degrés à l'extérieur. Donc on a des aberrations. Juste une question qui se pose quand même. On a découvert dans les grandes villes d'abord le plaisir d'avoir des terrasses partout. On a mis de la verdure, les terrasses, les cafés sont mis à l'extérieur.
Encore plus assez depuis le déconfinement, là, évidemment, avec les terrasses évidemment. Augmentées.
Et donc là, ils ne peuvent pas faire ça maintenant parce qu'on ne veut pas donner un coup de grâce à des restaurateurs.
En même temps, cette saison-là, on ne les chauffe pas les terrasses. Hein, c'est pour...
Oui, là en ce moment, ça va.
Un peu chaud,
oui,
là.
Mais dès octobre, ça va être le cas. Ouais. Et à mon avis, on aura encore des menaces de virus. Donc les gens vont avoir froid, on ne peut pas rentrer à l'intérieur, donc c'est un vrai problème. Est-ce que c'est le moment de mettre ça en place? J'en sais rien. Mais et puis alors, les contradictions sont sans arrêt, les injonctions contradictoires, par exemple. Bon, on fait ça, c'est très bien. Qu'est-ce que je vois? Je vois que la prime pour l'achat d'une voiture diesel est maintenue.
Ah oui, je vous ai vu que vous avez tiqué ça sur Twitter ce matin. Je me suis dit, ah, Sophie est en forme.
J'étais absolument scotché. Eh ben non, vous achetez une voiture diesel, vous avez une prime.
Un diesel propre alors, un diesel récent, si ça existe.
Non, diesel tout court, même d'occasion.
Ah bon, d'accord.
Et donc, je veux dire qu'on a aussi un manque de bon sens là-dedans.
Henri Vernet, les terrasses chauffées, c'est une aberration. C'est très agréable, hein, ça, on est d'accord.
Oui, voilà, vous l'avez dit, c'est très agréable, mais oui, c'est une aberration. Je veux dire, alors qu'on le maintienne cette année, parce qu'en effet, il y a un aspect tout à fait sinistré dans cette profession, parce que en effet, il se pourrait bien que si deuxième vague il y a, eh bien à ce moment-là, il n'y a qu'en terrasse que les gens pourront aller. Donc pourquoi pas ce moratoire? Mais sinon, dans l'absolu, oui. Même si c'est ça qui est très difficile, délicat avec l'écologie politique, c'est que le curseur est toujours extrêmement délicat à manier. Entre, il faut éviter tout ce qui est interdiction, tout ce qui enlève, en gros, tout presque goût à la vie, mais y compris quand on dit, on a entendu certains maires nouvellement élus, Bordeaux, Lyon, etc. On avait l'impression que ça y est, d'un seul coup, on allait interdire les voyages aériens, quels qu'ils soient.
Et 30 km à l'heure, vous pouvez les bouquiner à 30 km à l'heure.
Oui, pourquoi pas. On dit
c'est déjà en place dans certaines villes.
Moi, j'ai essayé, mais...
Notamment chez les écologistes à Grenoble. 30 km heure à Grenoble, c'est un des fers de lance de la politique des maires écolo.
Donc voilà, il faut toujours naviguer entre ces deux écueils, parfois d'ailleurs au risque de se caricaturer, de se ridiculiser un petit peu, comme on l'a vu quand même ces derniers jours sur différents thèmes. Mais il n'en reste pas moins que, bien sûr, que l'écologie, c'est bien le but de ce gouvernement, qui a bien vu les élections déjà européennes et puis donc confirmées aux municipales, notamment donc dans les grands centres urbains. Il faut tenir compte de ce phénomène. Donc en gros, ils sont en train de repeindre le quinquennat en vert, mais pas de manière totalement artificielle, parce que toutes les mesures que vous avez énoncées, elles sont vitales, elles sont extrêmement importantes. Et justement, tout le problème, c'est qu'il faut qu'elles se voient, il faut que les Français les ressentent, qu'elles soient perceptibles.
C'est vrai que là, il y a peut-être un petit problème.
Non,
de
pour l'instant, leur écologie ne s'est pas vue. Voilà. C'est vrai que Fessenheim, bon, bah, d'abord, on en parle depuis 150 ans. Puis, donc, qu'elle s'arrête ou pas, voilà. D'autres mesures, les éoliennes, ils ont mis beaucoup d'éoliennes. Ben oui, mais en plus,
c'est
les gens sont
plus très,
voilà. Très souvent, les gens
sont sur le fret.
Donc, il faut de l'environnemental qui se voit, qui soit perceptible, que les Français puissent, j'allais dire, toucher concrètement avant d'aller voter.
Et puis, être écolo eux-mêmes, parce que la responsabilité individuelle est un peu oubliée dans tout ça.
Alors voilà, d'où les terrasses d'ailleurs.
Mais la responsabilité individuelle, l'achat
Rennes,
du plastique.
Il n'y a plus de terrasses chauffées et les gens continuent d'aller en terrasse, visiblement.
Oui, c'est vrai. Enfin, j'aimerais mieux qu'ils commencent par éviter de jeter du plastique et des masques dans la mer aussi, là, en ce moment.
Ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est qu'en fait, ça résume tout le hiatus pour Emmanuel Macron, c'est de choisir entre économie et écologie, en fait. Et là, effectivement, il y a l'argument des restaurateurs qui disent attendez, on a souffert, c'est terrible. Comment est-ce que vous pouvez nous faire ça à partir du mois, mois de mars-avril prochain?
C'est
vrai que depuis le début de son quinquennat, Emmanuel Macron a souvent été ramené à ça, et Nicolas Hulot est parti précisément parce qu'il trouvait qu'Emmanuel Macron n'arbitrait pas assez souvent en faveur de l'écologie. Et notamment Édouard Philippe, c'est vrai, était plutôt réputé pour arbitrer plutôt en faveur des grands groupes, de l'activité économique, ce qui peut être tout à fait évidemment justifié, et ce qui m'avait justifié. Mais voilà, il y a une voie de traverse, une voie plutôt de médiane à trouver, très compliquée pour eux. Et ce que j'ai trouvé intéressant aujourd'hui dans Ouest France, il y a une tribune de Jean Castex qui définit sa position posture écologique. On sent qu'il essaie de repousser les écologistes, enfin, Europe Écologie Les Verts, dans des carcans extrémistes pour faire en sorte d'apparaître comme étant voilà, la position centrale et centriste.
Mais on a tous envie d'être écolo. On a tous envie de l'être au fond de nous. Les extrémistes nous empêchent d'être écolo.
Ce qui est intéressant, c'est que alors, j'ai repris ces termes, il parle de tenant de l'écologie, punitive, décroissante et moralisatrice, et que la cause écolos serait en retard à cause d'eux. On peut quand même dire que les militants écologistes ont peut-être un peu contribué à faire avancer la cause écolo, enfin, au moins à la porter dans le débat public. Mais bon, enfin,
effectivement, c'est une manière aussi de les marginaliser, de les cornériser presque, j'ai envie de dire. Julien Auffray, on est dans cette difficulté, effectivement, d'à la fois donner des gages à l'économie, surtout vu ce qu'on évoquait tout à l'heure au tout début de l'émission, c'est-à-dire le chômage et la crise, et en même temps de continuer à donner aussi, à se mettre en prise avec un monde, une urgence climatique qui est une réalité.
Ce qui a été dit juste avant, en fait, c'est le résumé de ce qui est en train de se passer. On repeint en vert, effectivement, le quinquennat. L'opinion publique, c'est assez drôle de regarder ça, mais l'opinion publique, quand elle est impactée par l'écologie, c'est toujours très compliqué. Donc effectivement, on va voir probablement que les terrasses chauffées, à mon avis, pour notamment les grandes villes, vous allez avoir des gens qui vont pousser des cris. Quand ça se voit moins et que c'est beaucoup plus flou, c'est beaucoup plus indirect, par exemple la centrale de Fessenheim,
sauf pour les gens de Fessenheim.
Les élus de Fessenheim qui ont vécu, qui sont en train de gérer une crise qui est très compliquée. C'est vraiment pas simple pour eux. L'opinion publique, quand ça l'impacte directement, c'est toujours très compliqué. Quand ça vous impacte directement, évidemment que quand c'est beaucoup plus flou.
Votre voiture qui ne peut pas rentrer
exactement,
dans la ville.
C'est exactement ça. C'est toujours très bien, les efforts doivent être faits par les autres. Allez. Soit c'est
et
plus
puis
compliqué.
Les terrasses, il y a les fumeurs. C'est un vrai problème.
C'est
aussi.
Fini pour ce
ça
soir.
Ça baissera peut-être le tabac en France.
Merci Julien Auffray. Merci Sophie de Menton. La une, peut-être Henri Vernet du Parisien aujourd'hui en France demain.
Alors ça ne plaira peut-être pas à Sophie, c'est le boom des voitures d'occasion. Donc j'imagine qu'il y a le diesel.
Non, moi je suis pour, mais le diesel, c'est moins bien.
Olivier Fay, vous avez un mot de la une du monde.
La une du monde de cet après-midi, c'est sur la bioéthique justement.
Eh bien c'est parfait. Merci à vous quatre en tout cas d'être venus aux informés de France Info qui reviennent demain
à 20h.
Merci à
vous.